RFI. Et voilà, c'est la fin de ce journal international Nemo.
Merci Karine Bellicha. Dans une demi-heure, place au débat. Mais avant cela, décryptage.
Radio G.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Eh bien le bonsoir, comme on dit dans Topette, c'est un début de semaine qui commence en fanfare. Ça y est, j'espère que vous avez bien réglé vos montres et vos horloges à la maison, et puis même sur votre téléphone, votre smartphone s'il ne le fait pas tout seul, et que vous êtes bien à l'écoute avec nous ce soir. Il est 18h10 et non pas 19h10. Attention les petits retardataires, restez avec nous jusqu'à 19h. Petit aperçu quand même de la semaine, semaine qui sera assez à la fois légère et bien remplie, puisque demain nous n'aurons pas d'émission. Voilà, on sera un petit peu en pause avec Nolwenn, l'occasion de faire un petit peu de ménage sur nos bureaux. Mercredi, ceci dit, on sera aux Orthomnales. On a été faire un tour là-bas du côté de Saint-Rémy-la-Varenne samedi matin. On va vous restituer un petit peu l'ambiance de cette incroyable fête consacrée aux courges et aux cucurbitacées en tout genre. Et jeudi, on va rester un petit peu dans le thème d'Halloween, puisqu'on fera l'émission depuis la boutique L'Esprit du Chaudron. Et ce sera également l'occasion de recevoir Christophe L de l'atelier Lyrique Angevin, qui va nous parler de Mesdames de la Halle. L'Esprit du Chaudron, je crois que ça te parle à toi, Raphaël. Bonsoir Raphaël.
Salut Pierre Benoît. Oui, super boutique consacrée aux phénomènes paranormaux notamment.
Exactement.
Ouais, c'est une super belle boutique et impressionnante aussi.
Voilà, toi.
J'ai hâte d'entendre cette émission.
Oh, c'est pas sûr que tu l'entendes, on sait que tu as facilement peur des émissions spéciales d'Halloween, le prouve, mais c'est pas le sujet. Ce soir, notre sujet, c'est plutôt l'histoire, le patrimoine, puisque vous le savez, l'émission est partenaire entre autres du repère urbain de la ville d'Angers, le RU comme nous disons, et Céline Marie Bruer sera avec nous. Elle est coordinatrice des expositions chargée de suivi des orgues et des objets d'art précisément au repère urbain, pour nous présenter l'exposition consacrée au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO. Ça se passe depuis cet été, ça a commencé cet été et c'est pas fini, puisque ce sera jusqu'au 4 janvier 2025. On n'en dit pas plus pour l'instant, on garde ça tout ça au chaud. Tout à l'heure en fin d'émission, on sera aussi en sport avec Régine Lemarchand, photographe sportive et aussi au Courrier de l'Ouest. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Mais avant tout ça, on fait un point sur l'actu locale à Angers et dans le département, et ça se passe avec toi Nolwenn. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
On commence avec le premier titre.
Des logements destinés aux primo-accédants vont être construits à Angers. Après un projet de 150 logements abandonnés, le promoteur Cogedim s'apprête à construire 62 logements à la Roseraie, mieux pensés pour répondre aux besoins urgents de logements. 40 ont été vendus à un bailleur social et 22 appartements seront en accession libre pour les primo-accédants. La surface des pièces a été optimisée et le coût des constructions ont été ajustés. Les prix sont d'environ 136 000 euros pour un T2 et 166 000 euros pour un T3. Pari réussi pour le promoteur, puisque la commercialisation qui a commencé en juillet, eh bien 60% des lots ont déjà été réservés, en grande partie par des personnes jeunes ou seules.
Un petit peu moins cher qu'à Arborescence. On continue avec 4 hommes condamnés pour des vols dans des entreprises de Maine-et-Loire.
Leur butin est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ces vols commis en 4 mois dans des entreprises à Bouchemaine, Segré ou encore Tiercé. Les malfaiteurs postaient des annonces de vente avant même d'avoir volé les objets. Des tracteurs tondeuses, des barbecues et même une caravane. Les 4 hommes interpellés ont déjà un casier judiciaire bien chargé. Le tribunal les a condamnés à des peines de 2 à 4 ans de prison ferme.
17 000 poules maintenant sauvées de l'abattoir, revendues à Angers, Nolwenn.
Ce sont 500 poules qui ont été vendues ce samedi à des particuliers à Angers, mais au total, c'est bien 17 000 volailles d'un élevage en plein air des Deux-Sèvres qui ont été sauvées de l'abattoir par l'association nantaise Poules pour tous. C'est le cas dans de nombreux élevages qui se débarrassent de leurs volailles pour des raisons sanitaires liées au nettoyage des bâtiments, mais aussi car elles pondent moins. Elles sont parfois destinées à l'abattoir dès l'âge de 18 mois, alors qu'elles peuvent vivre jusqu'à 6 ou 8 ans. Les prochaines ventes auront lieu le 28 novembre au Bricomarché de Brissac-Quincé et à Biocop à Avrillé.
Et ben voilà une info qui va faire plaisir à Raphaël. Merci beaucoup Nolwenn, tu restes avec nous jusqu'à la fin d'émission. On reçoit notre invité maintenant sans transition.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et bonsoir Céline.
Bonsoir.
Céline Marie Bruère, bien habituée de l'émission Topette. C'est pas la première fois que tu viens, je crois même que c'est la troisième au total, hein, depuis qu'on a commencé ce partenariat ensemble entre les services culture et patrimoine de la ville d'Angers et l'émission Topette et Radio G. Ce soir, ensemble, alors je vais quand même rappeler qui tu es coordinatrice des expositions et pour le titre très précis, tu es même chargée de suivi des orgues et des objets d'art, c'est-à-dire que l'orgue de la cathédrale Sainte-Maurice n'a aucun secret pour toi, si je comprends bien. Hein.
Alors, l'orgue de la cathédrale Sainte-Maurice est une exception puisqu'il appartient à l'État, mais sinon pour les autres, en effet.
Mauvais exemple. En tout cas, il y a des choses, bien sûr, qui appartiennent aux repères urbains, enfin, qui appartiennent pas tout à fait, puisque le but, ça reste quand même de les exposer. Et justement, on va parler d'une exposition, celle du registre Mémoire du Monde de l'UNESCO, l'occasion de rappeler ce que c'est. Ça a commencé le 5 juillet 2024 et ça court jusqu'au 4 janvier 2025. Beaucoup de choses. Alors voilà, il y a entre autres d'inscrits sur ce registre la tenture de l'Apocalypse d'Angers. Voilà, récemment dans l'actualité, Nolwenn, tu pourras me confirmer, on a parlé des essais de montagne, je crois. Tu as été faire un tour là-bas, toi ?
J'ai pas été faire un tour là-bas, mais j'aurais beaucoup aimé. C'était mardi dernier, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ça a l'air vraiment super d'exposer quelque chose comme ça. C'est un truc à aller voir, je pense.
Eh ben merci Nolwenn d'en faire la promotion, mais Céline va pouvoir compléter justement cette information. Déjà, on va reprendre les choses dans le bon ordre, s'il te plaît. Céline, est-ce que tu peux, pour les néo-auditeurs, auditrices de Topette qui arriveraient au cours de cette saison, rappeler ce qu'est le repère urbain qu'on peut appeler le RU, qui est au 56 boulevard du Roi René, je crois.
Tout à fait. Alors le RU se trouve au 35 boulevard
35.
Du Roi René et on peut y accéder par le jardin des Beaux-Arts, dont l'entrée se fait par la rue Toussaint. Et c'est un pôle culturel sur lequel ont été regroupés trois services de la ville d'Angers, les archives patrimoniales d'Angers, l'Artothèque et le service Angers Patrimoine. Et on y trouve donc ces trois services et des espaces d'exposition dédiés à la création contemporaine, à l'art contemporain et au patrimoine.
Un espace que Raphaël connaît bien. Je crois que tu as déjà eu l'occasion, toi, d'aller y faire un tour. Hein.
Alors oui, régulièrement, j'y vais voir des expositions. Je suis également abonné à l'Artothèque, un super concept à Angers, où on peut emprunter, comme dans une bibliothèque, des œuvres d'art pour 2 mois. Donc c'est super.
Raphaël, qui est une personne un peu plus avertie. Nolwenn, est-ce que tu connais le repère urbain en tant que plus jeune, presque étudiante ?
Je connaissais simplement de nom, mais j'y suis jamais allée.
Oui, le RU, ça fait plutôt penser au restaurant universitaire en principe.
Exactement.
Chez les jeunes. Et justement, c'en est un ancien, je crois, Céline, là-bas.
C'est ça, c'était le restaurant universitaire d'Angers qui a fermé en 2015 et qui a été réhabilité pour devenir un espace culturel.
Alors si maintenant on reprend l'intitulé de ta fonction, est-ce que tu peux nous préciser en quoi ça consiste justement ton rôle au sein du repère urbain sans trop en dévoiler sur l'exposition ?
Eh bien, je suis chargée de la coordination des expositions, donc je m'occupe avec la responsable du site qui est Stéphanie Vitargibia de la création, la mise en place, l'accueil d'œuvres dans le cadre d'expositions, à la fois dédiées au patrimoine, comme c'est le cas de celle dont nous allons parler tout de suite, mais aussi de celles dédiées à la création contemporaine, puisqu'on a aussi un très très grand espace qui est dédié uniquement aux contemporains.
Donc quand on connaît le lieu, c'est là-haut que ça se passe, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. L'art contemporain, c'est à l'étage, avec l'Artothèque et cette fameuse salle d'exposition. Et le patrimoine, c'est au rez-de-chaussée, avec le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine.
Et on pourra tout à l'heure redonner toutes les infos pratiques concernant ce lieu qu'il faut absolument au moins aller voir une fois si on est angevine. C'est hyper important, on peut y découvrir plein de choses, même si on n'est pas trop initié à l'art ou à l'histoire. Céline, tu confirmes ?
Tout à fait. D'ailleurs, ce lieu est fait pour ça. C'est vraiment un lieu qui est dédié à tous. On peut y venir en famille, avec des amis. C'est un lieu qui est accessible gratuitement. Et la pédagogie, la valorisation mise en place est vraiment ouverte à tout le monde.
Et ben voilà, maintenant que les présentations sont... Le contexte est redonné, on va pouvoir parler de l'intrigue centrale de cette émission de ce soir, l'exposition. Mais déjà, le registre, qu'est-ce que c'est, Mémoire mondiale, Mémoire de l'UNESCO ? Exactement. Mémoire du monde de l'UNESCO.
C'est ça, le registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Donc, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la culture, la science et l'éducation. Et donc, l'UNESCO a pour objet de mettre en avant des biens du patrimoine universel afin que on y prête attention et qu'on puisse le protéger. Et l'UNESCO a créé en 1992 un registre. Donc, c'est une liste sur laquelle sont inscrits les documents de l'humanité. Et ce registre compte aujourd'hui 20 biens français, dont la tenture de l'Apocalypse, qui a été inscrite sur cette liste le 18 mai 2023.
On va garder encore un peu de suspense. Les autres biens qui sont inscrits sur ce registre, on est sur quel ordre d'objets, de choses? On est sur toutes les époques, toutes les zones du monde?
Alors en effet, hein, le registre est international, il y a quasiment 500 documents qui sont inscrits sur ce registre et il est très très large. On parle des documents de l'humanité, donc il y a beaucoup de documents d'archives, mais en fait ce sont toutes les créations, on va dire, qui ont été réalisées dans le temps et qui ont encore un impact dans nos vies aujourd'hui. Donc c'est très large et ça concerne tout le monde.
Alors on peut comprendre le principe, c'est une sorte d'archivage, hein, des choses qu'on aurait oublié d'archiver par le passé ou alors qui sont déjà dans un processus de conservation. Qu'est-ce que ça vient rapporter en plus à ces objets pour ce qui nous concerne la tenture de l'Apocalypse?
Alors ça vient rapporter vraiment une mise en avant des documents, une valorisation auprès du très large public afin que tout le monde se saisisse de l'importance de ces documents.
Et l'UNESCO, c'est pas que ça, hein, juste parce que Nolwenn, peut-être que ça t'évoque des choses, l'UNESCO.
L'UNESCO, c'est, il y a un truc aussi avec la nature, non?
Ouais.
Je crois quelque chose comme ça, mais je sais plus exactement.
C'est oui. Pas. Oui, c'est ça. Il y a différents registres, en fait. Alors, on connaît surtout patrimoine mondial. Ce sont les grands sites, en fait. Et puis, le patrimoine immatériel, souvent avec la pizza, la baguette. Voilà, c'est les registres les plus connus.
Raphaël.
Et du coup, ce sont des registres qui évoluent avec le temps, en fait. Les listes, elles sont modifiables, puisque là, c'est arrivé récemment, par exemple, la tapisserie de l'Apocalypse.
Tout à fait. Ce sont des registres qui sont vivants. En fait, tous les deux ans, il y a un appel à candidature qui est lancé. Et chaque pays peut présenter, alors pour le registre Mémoire du Monde, chaque pays peut présenter deux biens tous les deux ans, devant une commission internationale qui se réunit, donc une fois tous les deux ans, et qui inscrit de nouveaux biens sur cette liste.
Ouais, donc 20 pour la France.
20 pour la France.
C'est entre guillemets peu. Je pense qu'il y a ça, la concurrence doit être rude pour être acceptée sur ce registre.
Alors c'est un registre qui est récent, hein, qui est créé en 1992, mais la France fait partie des pays qui proposent le plus de biens et qui a en effet un des pays qui a le plus de biens inscrits aujourd'hui.
Alors pour en découvrir un peu plus, il y a cette exposition qui est consacrée aux rues en ce moment jusqu'au mois de janvier, début janvier 2025. On va en parler maintenant. On fait juste une première pause musicale à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. On écoute Alcies Langslopt de Gerspaldul et Bouff.
Schoon Boefman, ben niet met Gers. Ah, ik weet nog precies hoe dit alles begon. We spraken voor het eerst af op Centraal Station. Daar stond ik al met een doosje bonbons. Je droeg een jas met bont tot net boven je kont. Je kende mij al vanuit die kledingzaak. Maar je viel me niet op, want ik had toen geen smaak. En toch spraken we wat vaker af. En verdwaalden we tot diep in de nacht. Van Rotterdam Noord naar Rotterdam West. Zwart achter in de tram. Maar dat kon ons weinig schelen, want we hadden allebei geen rode cent. Voel mij geblest sinds ik je ken. Maar als ik nu met je ben, wil iedereen alleen maar weten wie jij bent. Want als jij langs loopt, als jij langs loopt, ben ik verleden tijd, ben ik verleden. Alleen door jou. Als jij langs loopt, als jij langs loopt, kijk niemand meer naar mij, kijk niemand. Alleen naar jou. En door jou voelde ik mijn echte man. In een park op een kleed met een picknickmand. Witte wijn en wat Franse kaas. Verblind door de liefde op de juiste plaats. Je parfum hangt dagelijks door heel het huis. En iedereen wil een vrouw als jij.
Want jij veroverde mijn hele hart en we struinen door de hele stad.
Van Rotterdam Noord naar Rotterdam West, zwart achter in de tram. Maar het kon ons weinig schelen, want we hadden allebei geen rode cent. Voel mij geblest sinds ik je ken. Maar als ik nu met je ben, wil iedereen alleen nog maar weten wie jij bent. Want als jij langs loopt,
als jij langs loopt,
ben ik verleden tijd,
ben ik verleden.
Alleen door jou.
Als jij langs loopt,
als jij langs loopt, kijk niemand meer naar mij.
Kijk, als jij langsloopt voor meisjes die je boos maakt,
boos.
Mooie haren en je kont die is groot, ja
wow.
Het gaat degelijk, kan zeggen dat ik brood maak. Alleen mijn Louboutin zorgen dat ik rood sta. Bel me op met de clanny, ik ben zo daar. En ze schrik van de prijs, dus ik troost haar. Ben je lief, mag je mee naar mijn show maar. Kleed je wel fatsoenlijk, niet die type zo van show maar. En ik ken Hoos maar, jij bent niet hetzelfde. Je bent de 10, maar ik ken je sinds mijn 11e. Het ken zomaar, dat gaan we nog merken. Fok een baas, aan ons droom gaan we werken.
Als jij langsloopt, oh, oh. Als jij langs loopt, oh oh. Als jij langs loopt, oh. Als jij langs loopt, oh 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 oh. Want als jij langs loopt,
als jij langs loopt,
ben ik verleden tijd,
ben ik verleden.
Alleen door jou.
Alleen door jou.
Als jij langs loopt,
als jij langs loopt,
kijk niemand meer naar mij.
Als jij langsloopt, de Gers Paldoul et bouffe sur le 101.5 FM.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Topette, une émission qui un jour pourrait peut-être être inscrite à un des registres de l'UNESCO. Qui sait, en tout cas, c'est de ça dont on parle ce soir. On parle précisément du registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Alors pourquoi on en parle? Parce que déjà, il y a 20 objets qui sont inscrits sur ce registre-là en France, dont un ici. Enfin, objet, c'est vite dit. On parle de la tenture de l'Apocalypse à Angers, qui est inscrite donc sur ce registre. Et surtout, en ce moment, au repère urbain, aux rues, au 35 boulevard du Rhône. Non, c'est le 32, Marie.
35,
c'est le 35, c'est bon. Il y a une exposition, c'est jusqu'au 4 janvier 2025 précisément, et on est avec toi, donc Céline Marie Bruère, coordinatrice des expositions au repère urbain, qui a mis sur pied cette exposition dont on parle maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir y apprécier, y voir? Comment on déambule dans cette exposition, s'il te plaît?
Alors dans cette exposition, déjà, vous allez pouvoir retrouver tous les biens français qui sont inscrits sur cette liste, puisque pour chaque bien, il y a une notice explicative et puis un document qui montre cet objet inscrit. Et puis, pour certains, il y a des documents originaux qui sont présentés et donc vous pourrez vraiment apprécier de quoi retourne l'objet inscrit.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce qui a été inscrit à Angers qui est exposé dans cette exposition?
Non, voilà. Alors, ce qui a été inscrit à Angers, c'est la tenture de l'Apocalypse, et c'est vraiment le point de départ de cette exposition, puisque avec Stéphanie Vitargibia, nous avons mené le dossier d'inscription, et nous nous étions promis que si nous étions inscrites à l'UNESCO, eh bien, nous proposerions une exposition pour faire connaître à tous ce registre qui était assez méconnu. Et donc, vous pourrez voir la tenture de l'Apocalypse, mais pas que.
Alors je vois les archives du Père Castor, c'est-à-dire, j'étais persuadé que c'était un dessin animé, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu beaucoup parler de ce dessin animé.
Eh bien, vous avez raison, c'est un dessin animé, mais qui est inspiré en fait d'une collection de livres pour enfants, donc les livres du Père Castor. Père Castor, c'est Paul Fauché, et il a révolutionné, enfin créé en fait le livre pour enfants. Il faisait partie d'un mouvement de l'éducation nouvelle, et avec des illustrateurs de son époque, donc là on parle des années 1930, ils ont créé les albums jeunesse qu'on connaît encore aujourd'hui. D'abord, les albums du Père Castor sont toujours édités, et puis surtout, eh bien, il a donné vocation à beaucoup d'illustrateurs.
Alors Père Castor, ça parle aux jeunes, même encore aux jeunes aujourd'hui, bien évidemment, et puis c'est quelque chose de plutôt positif dans l'esprit des jeunes. Là, des fois, c'est un nom qui évoque un peu plus de traumatisme pour celles et ceux qui n'étaient pas très forts en français. Montaigne, qui est aussi présent dans cette exposition.
Tout à fait. Donc Montaigne, c'est le livre des essais de Montaigne. Donc c'est l'unique ouvrage qu'a écrit Montaigne. Et la bibliothèque de Bordeaux en conserve un exemplaire qui est annoté de la main de Montaigne. C'est vraiment un martyr. Il a travaillé sur cet exemplaire pour y apporter des précisions, rajouter des éléments, en biffer certains. Et la ville de Bordeaux a présenté les essais de Montaigne en même temps que l'Apocalypse d'Angers. Donc Bordeaux est un compagnon de route pour nous. Sur ce long chemin pour arriver à l'inscription. Et nous avons eu la chance d'accueillir la semaine dernière, pendant 3 jours, 7 exemplaires uniques et un trésor national qui, comme l'Apocalypse, ne sort jamais de la ville de Bordeaux et qui a passé 3 jours à Angers.
Oui, Raphaël.
Oui, pour ma part, j'ai vu ça sur les réseaux, effectivement. Et en fait, la personne manipulait ça avec beaucoup de précautions, avec des gants blancs. C'était très... C'est important, quoi, ce moment solennel et tout. C'était chouette à voir.
Oui, exactement. C'est un document qui est très fragile, puisque là, c'est un document qui est imprimé, donc c'est un papier. Mais ça reste un document fragile, qui date de 1588, donc un document ancien. Et comme c'est l'unique ouvrage annoté de la main de Montaigne, eh bien, on y fait très attention.
Et puisqu'on parle un petit peu de la manipulation des archives comme ça, des anciens objets, j'en profite pour te poser la question, Céline, parce que depuis la période Covid, on sait que quand on parle, on postillonne, et souvent dans les documentaires histoire, on voit les archivistes qui ressortent des documents, des vieux parchemins et tout ça, qui montrent ce sont les originaux. Il n'y a pas de masque, des fois il y a de la précaution, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques quand on manipule comme ça, qu'on montre aux gens?
Alors de toute façon, sortir un document d'archives, c'est toujours un risque, mais il faut savoir que de toute façon, ces documents vieillissent quoi qu'il en soit. On essaye au maximum de les protéger dans des environnements qui sont très contrôlés en termes de lumière, en termes de d'hygrométrie, et de temps en temps, on peut aussi se permettre justement de les sortir au grand public, dès lors que ça reste vraiment de manière très très ponctuelle. Et là, c'était le cas.
Et comme, alors je ne sais pas si on en a déjà parlé, de ces documents de l'abbaye de Clairvaux qui sont aussi exposés, qu'on a sortis pour l'occasion.
Voilà, alors là ce sont aussi des trésors qui sont présents aux rues jusqu'à début janvier, donc n'hésitez pas à venir les voir. On a 3 documents de l'abbaye cistercienne de Clairvaux, dont 2 parchemins qui sont du XIIe siècle, enluminés, donc ce sont vraiment des documents originaux et à ne pas rater.
Enluminé, pour les termes techniques, Nolwenn, ça veut dire que c'est décoré autour, c'est ça?
Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a certaines lettres qui sont colorées, qui représentent des personnages ou des décors souvent végétaux.
Nolwenn, c'est quoi toi le plus vieux document que t'aies pu voir de tes propres yeux?
J'en ai aucune idée, franchement, je sais pas du tout.
Et bah va aux rues comme ça, après tu pourras affirmer que c'est les essais de Montaigne. Ah bah non, ils sont repartis, mais ça pourrait être voilà.
L'abbaye de Clairvaux.
L'abbaye de Clairvaux, tu pourras le dire de vive voix. Il y a pas que des choses qui sont montrées aussi, il y a des dialogues qui sont ouverts. Je vois qu'il y a des conférences qui vont venir s'associer à cette exposition.
Oui, tout à fait. On a monté avec notre collègue de l'Institut Municipal un cycle de conférences autour de certains biens pour amener aussi une ouverture, une valorisation nouvelle sur ces biens.
On a fait le tour ou pas de l'exposition? J'essaie de voir là comment...
Eh bien, en autre document original, vous avez aussi un document de l'abbaye humaniste de Célestat. Donc là, on est un petit peu plus tard. C'est un document qui a été... C'est une compilation de documents du XIe jusqu'au XIVe siècle. Et ce sont les miracles de Sainte-Foy. Et c'est un document qui a été réalisé par Bernard, qui était écolâtre, à Angers. Donc un religieux de la cathédrale d'Angers. Et là aussi, on a une très très jolie enluminure à venir observer.
Céline nous présente Bernard comme si on le connaissait, comme si c'était un ami du coin. Pour parler de l'exposition visuellement un petit peu, c'est simplement des pupitres sur lesquels sont exposés les documents, ou alors on essaie d'avoir un parcours, d'avoir des panneaux explicatifs et puis aussi peut-être de les mettre dans un contexte?
Alors, il y a ces documents originaux qui sont sous vitrine, sous cloche, mais il y a aussi beaucoup d'interactions, il y a des choses à manipuler, puisque le registre documentaire, ce ne sont pas que des archives écrites. On a aussi, par exemple, l'institution du système métrique, ou alors les pantomimes lumineuses, qui sont les ancêtres du dessin animé. On a l'enregistrement de la première voix humaine à écouter. Donc il y a aussi des choses qui sont un peu plus originales, on va dire, que le document papier ou manuscrit.
Au clair de la lune, je crois, le premier document sonore.
C'est tout à fait ça, au clair de la lune.
Bon, bah, Nolwenn, demain, on n'a pas d'émission, tu vois. Si on ne sait pas quoi faire, on va pouvoir aller.
Ça donne envie, en tout cas.
Ça donne envie. Alors, il y a plein d'autres choses aussi qui donnent envie. Céline, tu restes avec nous, bien évidemment. On va redonner les infos pratiques dans quelques instants. Et puis, même aussi, deux, trois précisions sur l'exposition qui a cours en ce moment aux rues. Mais les autres choses qui peuvent donner envie, c'est Raphaël qui va nous les donner dans quelques instants. C'est moi qui commence, je crois, mais on va lancer le petit jingle juste avant, Raphaël.
Topette, l'agenda culturel.
Car oui, Raphaël, j'ai une collègue qui reçoit sa nièce de 9 ans cette semaine pour les vacances de la Toussaint et elle cherche justement des idées d'activités à faire dans le coin avec elle. Est-ce que tu aurais des bons plans ?
Eh bien, ça tombe bien, Pierre-Benoît, car après la spéciale Maison de quartier, il y a un mois, je te propose une chronique culturelle spéciale sortie enfant et ado cette fois. Alors, à partir de demain jusqu'au 10 novembre, vous en avez déjà parlé dans l'émission, c'est la 3e édition du Festival Jeune Public Zone de Turbulence. Spectacles, expos, fêtes, musique, concerts, il y a tout un panel de sorties proposées dans plusieurs villes de la région, Beaucouzé, Écouflant, Saint-Barthélemy, les Ponts-de-Cé. Alors, attention, les places partent vite, hein. J'y suis allé la semaine dernière et certains spectacles sont déjà complets malheureusement. Alors petit coup de cœur pour ma part pour l'expo Travelling de l'artiste plasticien Flop au complexe de la Géométrie, c'est à Saint-Barthélemy d'Anjou. Vous allez déambuler dans un décor doux, poétique, vous passerez beaucoup de temps à observer, contempler des paysages éphémères défilant sous vos yeux. Alors l'artiste joue avec la lumière, les ombres, les reflets, les couleurs, les transparences et souvent un amas de petits objets du quotidien va grâce à un système de projection devenir un personnage ou prendre une forme imaginaire, un paysage urbain, un immeuble. C'est à partir de 3 ans, c'est splendide, comme toutes les propositions de Flop, et ça apaise, ça fait rêver. Donc voilà, donc allez-y. Autre super proposition de ce festival, Héritage DJ Set Show le 3 novembre. Donc là, on est sur de la grosse ambiance bamboche cosmique. Hein. Les enfants pourront s'éclater sur la piste. On nous promet un spectacle hybride à coups de machines et de claviers agrémentés de samples. Et les enfants peuvent venir costumés en extraterrestre. Donc ça donne vraiment envie.
Eh ben merci pour ma collègue et puis sa nièce de 9 ans. Du coup, les propositions sont à retrouver bien évidemment sur le site du THV, le Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy d'Anjou et dans l'émission de Topette du 8 octobre dernier. Raphaël, t'avais hâte de découvrir l'exposition Profondeur de la collégiale Saint-Martin. Et ça y est, c'est fait.
Oui, voilà, c'est chose faite et c'est splendide. Quand vous entrez à la collégiale, vous devez rester un peu dans la zone sombre, le temps que vos yeux s'habituent à une autre ambiance, une autre lumière. Ensuite, vous traversez les rideaux et vous voilà plongé dans une atmosphère de planètes, d'eau, d'étoiles. Vous pouvez même vous allonger sur le sol recouvert de moquettes noires pour l'occasion. On y passe énormément de temps, c'est apaisant, c'est un autre monde. Et les vacances sont l'occasion d'y emmener vos ados, enfants, de nombreuses animations sont proposés à un tarif très léger. Il est conseillé de réserver son activité créative basée sur les reflets, notamment la transparence, ou d'aller écouter des histoires qui font rêver.
Et pour Halloween, c'est pas du rêve, mais c'est de la peur, peut-être.
Eh bien oui, il y a une nocturne qui est organisée là-bas, à la collégiale, donc vous êtes invité à vous déguiser pour visiter l'expo à partir de 19h ce jeudi 31 octobre.
Et les vacances de Halloween de la Toussaint, des activités pour enfants sont aussi proposées du côté de, on connaît bien dans Topette, WIT.
Voilà, le nouvel espace culturel, donc ça se passe rue Arras. Tu as souvent l'occasion d'ici d'évoquer ce nouveau lieu atypique et agréable qui propose de nombreuses activités artistiques, notamment pour les enfants pendant les vacances. On y retrouve une activité pour réaliser son marque-page en croquis urbain. Moment promo. Un atelier pour apprendre à manipuler les citrouilles le 31 octobre. Un atelier pour apprendre à confectionner les boules de graines pour oiseaux, pour aider les oiseaux à passer l'hiver. Donc il reste des places sur ces ateliers, donc n'hésitez pas. Il y a un site internet qui est en place depuis peu, là, donc on peut réserver directement en ligne son activité.
Alors on est rue du Hara, on prend boulevard du Roi René, on passe devant le repère urbain avant d'y retourner tout à l'heure, mais on va aller jusqu'au château entre-temps.
Voilà, c'est sur Kidiclic que j'ai trouvé ça, donc le site de référence pour les sorties enfants et ados. Donc un atelier sirène en boîte, notamment, alors c'est un atelier goûter au château d'Angers le 29 octobre pour les 7-12 ans. Cet atelier est proposé dans le cadre de l'exposition Le Chant des Ondes, des sirènes à Mélusine. Donc après les visites, les enfants pourront fabriquer leur petite boîte à automates pour faire danser sirènes et tritons. Tu sais ce que c'est Triton, Pierre-Benoît ?
Oui, oui, l'ami Triton.
Oui, donc voilà, réservation conseillée au 02 41 86 51 40.
Fallait réserver vite, hein. 02 41 86 51 40. 8h40, on peut se faire un petit peu de cinéma aussi, Raphaël, je crois.
Mais oui, allez voir Sauvage de Claude Barras. C'est un film d'animation avec les voix de Benoît Poulvorde, Laetitia Deutsch et Michel Wuillermoz. Je vous lis un petit peu le texte qui donne envie. Donc, à Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Kiria recueille un bébé oura-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment, Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Keria, Celia et le bébé singe baptisé Oshi vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction de la forêt ancestrale plus que jamais menacée. Alors Claude Barras est le réalisateur du célèbre Ma vie de courgette, Patate, donc, et Patate, hein, le film. Donc on peut y aller en toute confiance, ça se passe aux 400 coups. Alors il se passe souvent des séances spéciales là-bas pour le jeune public, et quelquefois des séances sont suivies d'une intervention d'un spécialiste du cinéma d'animation qui explique aux enfants comment sont réalisés les films. Donc c'est pédagogique et en plus suivi d'un goûter, donc tout est fait pour y passer un bon moment.
Merci beaucoup Raphaël. On se retrouve dans deux semaines ou dans un mois en fonction des jours fériés. On va voir comment ça se passe. Ma vie de courgette, hein, j'en profite pour vous rappeler que mercredi on va parler du festival des orthomnales. On reste
très belle transition.
Comme promis, on retourne au repère urbain.
Topette sur Radio G.
Pour l'exposition qui montre les objets inscrits au registre patrimoine du monde, j'ai pas réussi à l'avoir si je l'ai pas sous les yeux, le registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Ça c'est parce qu'on a l'habitude avec l'UNESCO d'entendre parler de d'autres termes, mais non, on parle bien du registre de la mémoire du monde. Concernant l'exposition, Céline, qui est donc coordinatrice de cette exposition avec Stéphanie, tu l'as mentionné tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce qu'on a oublié de dire certaines choses? Est-ce que tu voudrais appuyer sur certains éléments et l'importance que c'est aussi d'en profiter, même si c'est jusqu'en janvier?
Alors, ce qu'on peut rajouter, je l'ai dit brièvement au début, mais c'est qu'on a quand même un fragment de la tenture de l'Apocalypse d'Angers qui est exposé, puisque la tenture de l'Apocalypse, cette immense tapisserie, ne sort pas du château où elle est conservée. Mais il y a quelques fragments qui font quand même 1m60 de haut, donc des beaux morceaux, qui eux ne sont pas accrochés dans la galerie de l'Apocalypse. Et en ce moment, donc il y en a un qui est montré au repère urbain. Et donc c'est l'occasion de venir voir la tenture de très très près, puisque évidemment, quand elle est présenté dans la galerie, on ne peut pas l'approcher d'aussi près.
C'est peut-être bête, mais il faut quand même préciser que c'est un fragment qui n'a pas été détaché. C'est un fragment qui a été retrouvé déjà fragmenté. Hein.
Voilà, c'est ça. La tenture, dans toute sa vie, a connu beaucoup d'aléas, et notamment le fait qu'elle ait été découpée. Et on a en effet certains morceaux qui ont été découpés et qui aujourd'hui ne trouvent pas place dans la galerie parce qu'il n'y a pas de sens en fait à les mettre seuls.
Est-ce que tu peux rappeler brièvement que raconte cette teinture de l'Apocalypse? Quelle est son histoire pour celles et ceux, Joanne Nolwenn, qui a le regard interrogateur, qui connaît mais qui connaît pas en même temps depuis tout à l'heure?
Alors Nolwenn, je t'invite à aller au château d'Angers voir la teinture de l'Apocalypse. C'est gratuit pour les moins de 26 ans, donc il faut vraiment en profiter. Et donc c'est une immense teinture historiée. Hein. Elle faisait plus de 140 mètres de long à l'origine. Elle en fait un peu plus de 100 mètres aujourd'hui. Elle raconte en images le dernier texte de la Bible qui est l'Apocalypse, mais surtout elle le raconte dans le contexte du XIVe siècle qui est celui de la guerre de Cent Ans et d'un prince chevalier, son commanditaire Louis Ier d'Anjou, qui va vouloir en faire un élément pour porter sa politique internationale, c'est-à-dire européenne au Moyen-Âge. Et donc, il va rapporter les images de l'Apocalypse à ce que connaît la population médiévale du XIVe siècle.
Et Nolwenn, ça ferait pas une belle série Netflix, ça?
Si, vraiment, c'est à faire en série. Hein.
Ben justement, c'est un petit peu l'ancêtre, hein, pour caricaturer cette tenture, c'est l'ancêtre de tous les biens de consommation culturelle qu'on peut trouver aujourd'hui, que ce soit les mangas, les bandes dessinées, les films, les séries. C'est un élément structurel de la culture, finalement, cette tenture.
Alors, c'est-à-dire que de toute façon, l'Apocalypse, et par son histoire et ce que raconte en fait l'histoire de l'Apocalypse, hein, de ce combat entre le bien et le mal, de ces choses terribles qui peuvent arriver dans la vie, eh bien, cette histoire revient régulièrement dans la vie de l'humanité comme référence. On parle régulièrement en disant « Oh là là, c'est apocalyptique !» Et en effet, c'est un terme qui fait vendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, eh bien, la tenture de l'Apocalypse, vous l'avez peut-être vu, est affichée partout dans Angers avec une campagne qui s'appelle « Wow Apocalypse !» Et en effet, on rappelle ces ces images en fait aux Angevins.
On a vu notamment Douceline Ménard qui s'est fait relais de cette communication sur la tenture de l'apocalypse. Alors si ça vous a donné envie, parce que oui, il faut aller voir, faut en profiter. C'est pas parce que c'est jusqu'en janvier ça va arriver très très vite. Donc sautez sur l'occasion d'aller au repère urbain et puis même de découvrir ce lieu si ce n'est pas encore fait. Céline, tu vas nous redonner donc toutes les infos pratiques. Juste avant, on fait un petit détour du côté de Laval pour penser local. On s'intéresse aujourd'hui, ce soir, au repère Café Bourny.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Donc là, on a monsieur qui a ramené une lampe de chevet.
Qu'est-ce qui lui arrive à votre lampe de chevet ?
Elle ne marche plus. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça doit venir d'une mauvaise soudure ou...
Là, en fait, c'est la petite chambre d'insertion du mini USB qui est cassé, enfin, qui est dessoudé du petit circuit imprimé, et on va essayer de la ressouder tout simplement. On va attendre que le fer chauffe et puis on va se mettre au travail.
Amaury, vous êtes l'animateur du Repair Café du Bourny qui se réunit une fois par mois, et on voit qu'à chaque fois il y a beaucoup de monde.
Oui, il y a plein de monde, et je profite du micro et de votre venue pour recruter de nouveaux bénévoles, parce que il y en a trois qualifiés vraiment pour démonter et détecter des pannes d'appareils. On manque de bénévoles, alors s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Nos bénévoles amènent leur caisse à outils. On essaye d'en acheter un petit peu. Il y a déjà quelques outils qui ont été achetés par le Repair Café, par la tirelire qui est mise à disposition des usagers. Et on peut acheter aussi du café et des petits gâteaux.
Dans les personnes qui viennent ici, qu'est-ce qui les motive ?
On se rend compte dans la société d'aujourd'hui qu'on jette bien de trop. C'est la nature qui est chargée de le digérer. Ils nous le disent quand ils viennent ici. Ils viennent qu'avec des petits objets pour lesquels ça ne vaudrait pas le coup de faire réparer ça par un professionnel. Ça coûterait plus cher qu'un appareil neuf. C'est l'atelier de la dernière chance pour ces petits appareils-là. Il y a des fois des objets non démontables. Et attention aux appareils bon marché. Regardez les vis, vous allez comprendre tout de suite que ça ne se démonte pas. Des fois, c'est même riveté, ce qui fait qu'on est obligé de casser la coque de l'appareil pour accéder à l'intérieur. Donc il faut acheter des choses démontables.
Et là, je crois que Jacqueline vient de vous déposer une cafetière qui avait l'air un peu capricieuse.
On fait plusieurs chantiers en même temps. J'ai commencé à réparer ce thermomètre. Je vérifie qu'il a l'air de fonctionner. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à démonter la cafetière de façon à appliquer du nettoyant contact sur l'interrupteur.
Jacqueline, ce qui vous motive pour venir ici ?
Je trouve qu'elle est convenable d'être réparée. Bah oui, c'est une marque quand même. Mais c'est démonté. Voilà le problème.
Toutes les vis semblent être retirées et pour autant, ça coince encore.
Eliane, vous avez apporté une petite chaîne stéréo ?
Oui, le lecteur CD a un problème. Il lit, mais il se bloque au bout d'un certain temps. Une fois, j'avais apporté un mini-four qui ne démarrait plus.
Et qui avait retrouvé une nouvelle vie ?
Pas complètement, non, parce que en fait, il fallait retrouver une pièce. Il aurait fallu la faire réimprimer en 3D. Donc j'ai laissé. Je l'ai emmené chez Envie. Parce qu'ils font aussi des réparations. C'est une bonne formule aussi.
Et là, votre démarche en venant ici, quelle est-elle ?
Que surtout, ça ne soit pas jeté. Quand il sera réparé, je le donnerai certainement, parce que j'en ai un autre.
Monsieur, vous venez d'apporter
Un aspirateur Dyson.
Vous avez un diagnostic là pour cet aspirateur ?
Il est simplement, apparemment, bourré de poussière. Alors, le moteur et tout ça, tout est bloqué. Par contre, les batteries sont bonnes. Je suis obligé de l'emmener chez moi parce que dans le cadre de notre association, nous n'avons pas de compresseur pour pouvoir souffler et éliminer la poussière. Donc je vais l'emmener chez moi et le mois prochain, on reviendra voir ce que ça donne.
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ou...
À l'origine, je suis accordeur de piano et j'ai été dans une vie antérieure électromécanicien.
Et le plaisir de venir le dimanche matin ?
Le souci de ne pas jeter, j'ai pas les chiffres exacts.
Il semblerait, selon l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, je crois que les Français jettent chaque année en moyenne 22 kilos d'objets électroniques. C'est vertigineux.
Oui, tout à fait. Parce que ça s'est enfoui, c'est peut-être en partie démonté, mais dans quelle mesure est-ce recyclé ? Le véritable recyclage, quoi.
À votre niveau, vous contribuez à limiter les dégâts.
Voilà. D'autant qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de s'acheter un aspirateur, par exemple. Enfin.
Il y a le volet économique et le volet environnemental.
Les deux sont liés, oui.
Voilà, ce Repair Café du Bourgny à Laval est principalement dédié aux petits électroménagers, mais beaucoup de lieux de la sorte, où l'on dit stop au gâchis et à la surconsommation, fleurissent un peu partout. Il y en a forcément un près de chez vous que vous trouverez référencé sur le site repaircafé.org où vous pourrez faire réparer ou pourquoi pas faire profiter les autres de vos compétences. C'était une interview réalisée par Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne pour Pensée Locale.
C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Et Topette qui prend fin ce soir. On va se quitter dans quelques instants avec le podcast de millième de seconde de Festival de la photographie sportive à Saint-Mathurin-sur-Loire qui avait cours cet été. Une autre exposition qui a cours donc toujours en ce moment jusqu'au mois de janvier. C'est celle qui est en ce moment au Repère Urbain et on est avec toi toujours Céline pour en parler. Registre, faut vraiment que je prenne registre mémoire, la mémoire du monde de l'UNESCO précisément. Pour rappeler en quelques mots vraiment Céline, qu'est-ce que ce registre?
Eh bien, ce sont des documents de l'humanité qui sont protégés, enfin qui sont inscrits sur cette liste Mémoire du Monde de l'UNESCO.
Voilà, tout simplement. Et donc là, l'exposition qui est en ce moment au Repère Urbain, c'est pour montrer, on parlait de fragments tout à l'heure avec la tenture de l'Apocalypse, c'est un fragment de ce registre en fait.
Voilà, c'est ça. Pour chaque élément inscrit, on a essayé de montrer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler.
Et ça ressemble à quelque chose de plutôt magnifique. On n'a pas parlé des publics, en fait, Céline, tout le monde peut y aller, on n'a pas besoin d'être initié hein, pour cette exposition.
Alors non, en fait, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. On a fait en sorte d'avoir différents niveaux de lecture en fonction de la connaissance et de l'âge des personnes qui viennent visiter. Il y a aussi des médiations qui sont proposées pour les personnes qui le souhaitent et des ateliers aussi pour le très jeune public pendant les vacances scolaires, donc encore cette semaine, et puis ensuite sur les mercredis ou les samedis.
Je pense avoir la réponse. Je te pose quand même la question. Ton petit coup de cœur sur parmi les objets qui sont exposés, c'est lequel?
Alors moi, ce sera toujours la tenture de l'Apocalypse, mon coup de cœur.
Je le savais. Nolan, qu'as-tu pensé de la découverte de ce registre, de la mémoire du monde? Je l'ai dit sans lire cette fois-là. Et puis de cette exposition, ça te donne envie?
Ouais, ça me donne envie. Bah, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a d'enregistré de français sur. Sur ce registre. Et voilà, je connaissais que la tenture de l'Apocalypse, du coup. Voilà. Hâte de voir les autres.
Bon bah c'est l'occasion de découvrir. Tant pis pour les essais de montagne. Par contre, on peut peut-être faire un petit clin d'œil à Bordeaux. Comment on fait là-bas? J'imagine que c'est exposé également. Je sais pas si t'as le lieu.
Alors non, le document n'est pas du tout exposé.
Elle est jamais exposée.
Et non, c'était vraiment exceptionnel.
Ah oui, d'accord.
Par contre, on a à Angers une version numérique qui est accessible et que vous pouvez accéder chez vous sur le site de Selene, S-E-L-E-N-E. Et on a aussi un fac-similé, c'est-à-dire une reproduction en fait de ce document en ce moment au RU. Donc vous pouvez déjà venir voir cela et puis sinon en effet sur le site internet de la bibliothèque de Bordeaux.
Jusqu'au mois de janvier, l'exposition sur le registre de la mémoire du monde, mais pas que, le RU c'est tous les jours de l'année quasiment. On peut peut-être redonner les infos pratiques ou les découvrir, Céline?
C'est ça, donc le RU c'est ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h, tous les jours sauf les jours fériés et donc le dimanche et le lundi qui sont fermés au public.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu pour nous partager ta passion débordante et dévorante et puis cette exposition qui a cours en ce moment, donc l'exposition Mémoire du Monde sur le registre Mémoire du Monde de l'UNESCO. Céline Marie Brouwer, tu es coordinatrice des expositions, chargée de suivi des orgues et des objets d'art pour la ville d'Angers. Merci beaucoup. Nous, on se dit à demain. Non, pas à demain, mais plutôt à mercredi dans Topette. Prenez soin de vous et on se quitte avec le podcast de millième de seconde. Topette.
L'idée, c'était de pas faire de la photo de sport à proprement dite. C'était un peu faire un reportage pour montrer qu'est-ce que font tous ces athlètes, c'est quoi leur quotidien, leurs entraînements, et rentrer un petit peu dans l'intimité, faire un reportage documentaire où il y a une dimension narrative et humaine.
Régine Lemarchand s'est spécialisée dans le photoreportage. Pour millième de seconde, elle a eu carte blanche avec l'expo En route vers Paris. C'est la préparation de deux athlètes, Vanina Paoletti en kayak et Jordan Ducret en rugby fauteuil, qui sont à l'honneur. Millième de seconde, c'est le festival de la photographie sportive chaque année à Saint-Mathurin-sur-Loire.
Je suis photographe angevine. Je travaille essentiellement sur la région angevine et un petit peu sur Paris pour les entreprises, pour les institutions et également je travaille pour la presse et notamment en sport. Donc je suis amenée à couvrir une palette assez large. Ça va du reportage artisanal, industriel au reportage événementiel qui est effectivement quelque chose que je fais relativement souvent pour les entreprises. Et après pour le Courrier de l'Ouest, je fais du sport. Et également ce qu'on appelle de la locale, donc je peux faire aussi bien du portrait que des fêtes de village, que des événements politiques, enfin tout un tas de choses.
Toi, ta patte, c'est de raconter des histoires, c'est-à-dire qu'on peut pas se contenter d'un seul cliché, il doit y avoir c'est un livre en fait. Toi, tu proposes des livres photos d'une certaine façon.
C'est un peu ça, raccourci, parce que c'est pas des livres, ça
c'est
prend
une image.
Quand même, voilà, moins de pages. Mais oui, c'est l'idée, c'est qu'il y ait un début, un milieu, une fin, ce qu'on appelle aussi de l'identité de lieu, c'est-à-dire essayer de montrer où se passent les actions et que ça raconte, ça, c'est exactement le terme, c'est que ça raconte une histoire.
Ces histoires, comment t'as voulu les raconter avec Vanina Paoletti et Jordan Ducret sur cette carte blanche en route vers Paris que t'as donnée, Eddy, par rapport à Millième de Seconde? Qu'est-ce que t'as voulu raconter?
Eddy m'a contacté, on a dû se voir en janvier et du coup on s'est dit que c'était un résultat qu'il fallait apporter au plus tard fin avril. Donc on était dans un temps relativement court parce qu'effectivement des reportages en intimité comme ça, souvent c'est des reportages qui peuvent prendre des années. Donc là on était sur un timing un peu plus serré. Donc comment j'ai procédé avec Vanina, et c'est un peu pareil avec Jordan, ne connaissant pas le sport et ne connaissant pas les athlètes personnellement, on a déjà eu un premier rendez-vous pour pouvoir un peu se rencontrer, voir si le feeling passait, parce que je suis pas juste là pour photographier une action, ils sont pas en championnat, donc pour avoir justement des choses un peu personnelles, il faut qu'il y ait un lien qui se passe. Et puis, au fur et à mesure que Vanina, par exemple, me parlait de ce qu'elle faisait, qu'elle s'entraînait à Angers, qu'elle s'entraînait à Vers, qu'elle faisait du yoga, qu'elle faisait... Donc moi, au fur et à mesure qu'elle me parlait, ça faisait déjà des images dans ma tête. Pour Jordan, il y a les matchs, mais il y a aussi le fait qu'il ait un handicap, comment il s'équipe, qui est quelque chose qui est très intéressant, en fait, de voir comment il se protège pour pouvoir faire son sport. Et puis il y a toute la partie musculation, toute la partie préparation physique, l'effort, etc. que pour les deux athlètes, ça a été un sujet un petit peu de base et qui fait partie, grande partie du reportage, toute la partie développement musculaire et physique. Pour le reportage, pour les voir, ça a été relativement compliqué parce que ce sont des athlètes olympiques. Ils ont des entraînements au quotidien jusqu'à 20 heures par semaine. Et du coup, il y a eu 5 rencontres chacun. Et pas tout le temps des prises de vue parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu une interview parce que, comme j'ai dit, ça se veut narratif. Donc du coup, il y a eu une interview. Et donc avec les images, il y a du texte pour comprendre leur parcours. Et leurs histoires.
Alors Jordan, du fait de qu'il soit en fauteuil, est-ce que ça a modifié ta manière d'aborder les choses, ou au contraire ça devait pas forcément être quelque chose qui devait être soumis en lumière, ou mis plus particulièrement en lumière, le fait qu'il y a un handicap?
Alors je voulais vraiment pour Jordan que ça soit le plus normal possible, parce que effectivement les gens en situation de handicap, ils ont envie d'être comme tout le monde. Maintenant, j'ai eu autant Vanina, donc c'était décidé que c'était Vanina, et si le feeling passait, je partais avec Vanina et ça s'est très bien passé, donc c'était parti pour Vanina. Autant pour la partie paralympique, j'ai eu le choix entre plusieurs athlètes et j'ai choisi Jordan parce que en regardant ses vidéos, c'est la personne que j'ai sentie super à l'aise avec son handicap. Et c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui se sentait bien, qui a eu un accident dans sa vie, mais qui a su rebondir et qui était hyper positif par rapport à ça, parce que moi j'avais besoin de me sentir quand même à l'aise, et que si je faisais des bêtises de langage, ou parce que forcément je sais pas, mon quotidien de côtoyer des gens, des personnes qui ont un handicap, qu'il en rigolerait, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu un super feeling. Moi, je l'ai trouvé hyper intéressant, et ça a été une super leçon de vie aussi, c'est un super héros en fait, hein. Jordan, c'est ce que j'ai voulu aussi montrer dans le reportage, c'est qu'il fait des exercices qui des fois pour nous valides c'est très simple, mais pour lui ça peut être compliqué. Et inversement, il fait aussi des choses, notamment en musculation, que invalide ne pourrait pas forcément faire. Donc voilà.
Un travail complet que tu proposes, Régine. Du coup, Régine Lemarchand, alors un travail qu'on peut retrouver ici pour millième de seconde, et le reste de ton travail, comment on peut l'apprécier? Est-ce que tu as un book en ligne? Est-ce que tu as un compte Instagram? Est-ce que tu as un site internet sur lequel tu partages justement tes reportages, tes créations?
Alors oui, j'ai un site internet, c'est rlphotographie.fr tout simplement. Ça représente une offre de service corporate, mais j'ai également un onglet sur ce site artistique, parce que c'est pas la première fois que je fais des expositions. Voilà, je fais de temps en temps du travail d'auteur, qui est encore différent, puisque là on est sur un reportage documentaire. Travail d'auteur, c'est vraiment beaucoup plus artistique. Donc oui, il y a des photos sur mon site, et voilà, j'invite le public à me découvrir.
Merci beaucoup, Régine. Le festival millième de seconde à Saint-Mathurin-sur-Loire, tous les ans.
Radio G, en RNT à Angers. Radio G, un point c'est tout.